journal vous est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comptez le moindre centime. Les Français se serrent la ceinture face au prix de l'énergie et des courses qui flambent. Une réalité pour des milliers d'Européens. Et plus encore, de l'autre côté de la Manche, les Anglais pris à la gorge par une inflation de 3,2%, conséquence du Brexit et de la hausse mondiale des prix. Reportage à Londres de la correspondante d'Europe 1, Anaïs Cordoba.
Dans cette rue commerçante du nord de la capitale, les Londoniens sont nombreux à se plaindre d'une hausse générale du coût de la vie.
J'ai remarqué que le prix des fruits a augmenté, mais aussi celui de la viande préparée sous vide. Maintenant, le panier de quelques courses qui me coûtait 20 livres est passé à 30 livres. Je vais peut-être devoir aller dans un supermarché moins cher.
C'est surtout l'essence qui est plus chère. Je paye environ 10 centimes de plus par litre. C'est embêtant, c'est difficile de trouver toujours plus d'argent pour des choses dont vous avez besoin constamment quand votre salaire n'augmente pas.
Si l'augmentation des prix aux consommateurs reste encore modérée, les entreprises, elles, sont touchées de plein fouet, comme l'a expliqué hier le patron de la Fédération des industries alimentaires aux députés britanniques.
Les hôtels et restaurants font face à une inflation entre 14 et 18%. C'est terrifiant. L'inflation, c'est le pire fléau car elle frappe surtout les plus pauvres.
Et la Banque d'Angleterre prévoit que l'augmentation des prix continue jusqu'à atteindre 4% d'ici la fin de l'année. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Alors est-ce qu'on doit s'attendre au même scénario en France? Le gouvernement fait tout pour l'éviter. En fin de semaine, il proposera des mesures contre la hausse des prix du carburant. Plusieurs options sont sur la table. Une baisse temporaire de la fiscalité, une taxe flottante qui remonterait automatiquement lorsque le prix du carburant passerait sous un certain seuil. Mesure qui coûterait cher aux finances publiques. Une baisse d'un centime représente un demi-milliard d'euros en moins. C'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie sur Europe 1 lundi. Également dans les tuyaux, le chèque carburant ou un bouclier tarifaire. L'exécutif qui, dans le même temps, revoit certaines de ses mesures à la baisse. C'est le cas du contrat d'engagement pour les jeunes qui doit être présenté demain. Il s'agit d'une allocation pour les 16-25 ans engagés dans un programme d'aide à l'emploi. Il doit aussi permettre de recruter de nouveaux agents dans les missions locales et chez Pôle emploi. Dispositif annoncé cet été et qui, avant même d'être lancé, a déjà fondu Zoé Pallier.
2 milliards d'euros, c'était le coût estimé du dispositif quand il s'appelait encore Revenu d'engagement pour les jeunes. Trois mois plus tard, l'enveloppe a fondu, elle serait de 500 millions d'euros et Matignon préfère désormais parler de contrat d'engagement. Une manière d'insister sur les obligations des bénéficiaires qui doivent suivre des parcours d'insertion professionnelle. La cible du dispositif, elle aussi, se resserre. 500 000 jeunes seraient concernés, c'est moitié moins qu'initialement prévu. Un projet moins ambitieux, mais cela répond à la baisse du chômage, justifie le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Les derniers arbitrages doivent être finalisés ce midi, avant un débat le 4 novembre à l'Assemblée nationale.
Zoé Pallier, dans l'actualité internationale à présent, redistribuer la richesse, c'est ce que demandent les milliers de grévistes américains mobilisés depuis plusieurs semaines.
Ils travaillent dans des secteurs aussi variés que la fabrication de céréales, de tracteurs ou dans les hôpitaux. Il y a même un hashtag sur les réseaux sociaux, hashtag StrikeTober, pour Strike October, les grèves d'octobre, des grévistes qui dénoncent l'enrichissement de leurs entreprises et la dégradation de leurs conditions de travail, des salariés qui ont continué à travailler depuis le début de la crise sanitaire et qui réclament augmentation de salaire ou congés supplémentaires.
Ils ont retrouvé un pouvoir de négociation, les salariés américains. Est-ce que ça va se produire en France également? On se pose la question. En Martinique maintenant, l'hôpital permet aux soignants non vaccinés de venir travailler.
Et il les invite à réaliser un test Covid car des contrôles seront tout de même effectués. Une manière de jouer l'apaisement alors que les tensions sont extrêmement vives entre syndicats et direction du CHU sur la question de l'obligation vaccinale. Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a assuré devant l'Assemblée nationale que l'obligation vaccinale doit s'appliquer chez les soignants en Martinique et en Guadeloupe.
C'est une information Europe 1. Une femme de 69 ans a été retrouvée morte dans sa chambre à l'hôpital Nord de Marseille, dans le 15e arrondissement, la nuit dernière.
Atteinte de la maladie de Charcot, elle a reçu une balle dans la tête, vraisemblablement de son mari de 71 ans, qui se serait suicidé après son geste. Une lettre a été retrouvée où il explique que cet acte était convenu entre eux. Il était tireur sportif et inconnu des services de police. Aucune histoire de violence entre eux n'a été signalée.
Europe 1, il est 8h06. Nicolas Sarkozy sommet de comparaître. Le tribunal correctionnel de Paris ordonne donne son audition au procès des sondages de l'Élysée.
Décision rarissime et très ferme. Si l'ancien président refuse de témoigner, les magistrats feront appel à la force publique. Témoignage prévu le 2 novembre dans une affaire où il bénéficie de l'immunité présidentielle. Mais quatre de ses anciens conseillers sont mis en cause. La justice leur reproche d'avoir commandé des milliers de sondages pendant le mandat Sarkozy sans avoir respecté les règles de l'appel d'offres. Pour l'avocat d'Anticor qui a porté plainte, la parole de l'ancien président est nécessaire à la manifestation de la vérité. Écoutez Maître Jérôme Carsenti avec Marion Gauthier.
Je crois que le message qui est envoyé par la justice aujourd'hui aux hommes politiques est très fort. Ça vient dire qu'un ancien président de la République n'est pas au-dessus des lois et qu'il ne peut pas refuser de venir témoigner et que s'il le refuse, eh bien à ce moment-là, des gendarmes iront le chercher. Petit à petit, la justice est en train de marquer très bien son territoire et de montrer aux élus qu'ils sont responsables de leurs actes et qu'ils ont intérêt à avoir une conduite exemplaire. Je crois que c'est important.
Et pour les soutiens politiques de l'ancien président, c'est une tentative d'humiliation. C'est en tout cas le sentiment de Julien Aubert, le député Les Républicains du Vaucluse, au micro d'Alexis de La Fontaine.
Nicolas Sarkozy doit être traité comme n'importe quel citoyen, ni plus ni moins. Il a droit aussi que la procédure qui le concerne ne fasse pas l'objet d'un déballage permanent, avec le sentiment quelque part qu'on voudrait l'attraire, l'humilier, le tracter, le capillotracter devant les tribunaux, ou comme s'il y avait une résistance de sa part. Je crois qu'il s'est toujours plié aux convocations qui lui ont été adressées, donc je ne pense pas qu'il faille, si vous voulez, en faire plus de théâtre que nécessaire.
Le député du LR, Julien Aubert, au micro d'Alexis de La Fontaine. Dans l'actualité européenne, le torchon brûle toujours entre la Pologne et l'Union européenne.
Varsovie a récemment estimé que la constitution polonaise était supérieure au texte de l'UE. Une remise en cause du projet européen qui donne lieu, à la veille d'un sommet européen justement, à des passes d'armes entre le gouvernement polonais et les dirigeants de l'UE, Jean-Sébastien Soldaini.
C'est un bras de fer à 36 milliards d'euros, une coquette somme qui revient à la Pologne dans le cadre du plan de relance européen, mais qui pourrait bien lui passer sous le nez. Bruxelles n'apprécie pas les récentes réformes entamées par le parti au pouvoir, la justice ne serait plus indépendante, et Ursula von der Leyen le martèle, la Commission agira pour défendre les valeurs communes de l'Union. Menace de voir les milliards gelés sur un compte, menace aussi de saisir la Cour de justice de l'UE, ce qui ne semble pas faire frémir Mateusz Morawiecki, le premier ministre polonais. Il ne s'embarrasse pas des questions d'état de droit, car tout ce qu'il voit, c'est un chantage et même de la coercition. Des mots employés à la tribune de son Parlement, 30 minutes d'un discours où il a prôné la souveraineté des États membres face à Bruxelles, un sujet sur lequel il a peu de soutien, à part la Hongrie. Plusieurs États membres considèrent en effet que la Pologne ne respecte pas les critères requis pour accéder aux fonds européens.
Jean-Sébastien Soldaini, peut-on rester dans l'UE si l'on récuse la primauté du droit européen ? Ce sera le thème du Zoom Info tout à l'heure à 8h40 avec nos invités Vincent Trémollet du Figaro et Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman. Le football et Karim Benzema, qui pour une fois ne sera pas en attaque mais plutôt en défense.
Oui, car aujourd'hui le terrain c'est un tribunal. Le footballeur comparaît dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema en court 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage. Une affaire qui empoisonne l'équipe de France depuis 6 ans déjà, Jean-François Pérez.
Oui, la première victime n'est autre que Mathieu Valbuena. Le milieu de terrain était à l'époque l'un des piliers des Bleus, 52 sélections, 8 buts. Après la révélation de l'affaire en 2015, on ne l'a plus jamais revu sous le maillot de l'équipe de France. Il en nourrit, à juste titre, un sentiment d'injustice. Autre personnalité affectée, Didier Deschamps, qui a dû gérer un dossier complexe. Quand il n'a pas retenu Benzema pour l'Euro 2016, l'attaquant du Real Madrid s'est lâché dans la presse espagnole. Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, a-t-il estimé. La résidence secondaire du sélectionneur a été taguée du mot raciste. Ces attaques, je ne les oublierai jamais. Mais jouera-t-il avant de rappeler Benzema 6 ans après. D'une certaine manière d'ailleurs, le joueur a également pâti de cette affaire. S'il n'avait pas été banni des Bleus, Benzema aurait peut-être battu des records, voire remporté un ballon d'or. Enfin, dernière entité impactée, l'équipe de France évidemment. Avec Valbuena et Benzema, les Bleus n'auraient peut-être pas gagné l'Euro 2016, mais ils auraient sans aucun doute été encore plus redoutables.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. À suivre, l'invité d'Europe Matin, Bertrand Piccard, le président de la Fondation Solar.